Bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on pourrait allumer la lumière ici, s'il vous plaît? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Mais je pense que tout le monde se porte bien, avec la grâce du Seigneur. Donc, j'aimerais partager avec vous un passage, un texte dans l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes encore en plein dans la fête de Pentecôte. Dimanche dernier, nous avons fêté Pentecôte et nous avons eu un excellent message sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et j'aimerais que nous puissions poursuivre notre méditation sur l'esprit de Pentecôte, la Pentecôte. Et lorsque nous parlons de la Pentecôte, évidemment, nous parlons du Saint-Esprit. Lisons ensemble, mes amis, dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. Les versets 14 à 17. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Parler de la Pentecôte, c'est évoquer le Saint-Esprit. C'est parler du Saint-Esprit. C'est mentionner la troisième personne de la Sainte Trinité. Mais quelle est la signification du Saint-Esprit pour l'Église? Quelle est la signification du Saint-Esprit pour le croyant? Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur la terre. L'Esprit vient habiter sur la terre. L'effusion de l'Esprit Saint dans la vie de toute personne qui se tourne vers Jésus-Christ dans la foi. C'est ça, Pentecôte. Le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant qui se tourne vers Jésus-Christ dans la foi. Pentecôte, c'est aussi le début de la proclamation et de la propagation de l'Évangile à toute créature sous le ciel, en commençant par Jérusalem, jusqu'aux quatre coins de la terre. C'est ça, Pentecôte. Pentecôte, c'est aussi le début de la marche dans la sanctification dans la vie de tout chrétien. C'est le début de l'enseignement de la parole de Dieu. L'Église a besoin du Saint-Esprit pour enseigner les vérités du message du salut. Sans l'Esprit Saint qui apporte la compréhension de cette parole est morte. Morte dans le sens où je ne peux pas la comprendre. J'ai besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. La Pentecôte, c'est aussi le début de notre privilège, mais aussi de notre lourde responsabilité de parler du Saint-Esprit aux gens vers qui nous sommes appelés à témoigner. En tant que chrétien, j'ai la responsabilité et le devoir, le privilège, de parler du Saint-Esprit à ceux qui m'entourent. Mais qui peut parler ouvertement et honnêtement du Saint-Esprit par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu? C'est le chrétien. C'est le chrétien qui est appelé à parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le chrétien est celui qui est né de nouveau. Le chrétien est celui qui, un jour, a fait la paix avec Dieu de son cœur par Jésus-Christ. Le chrétien est aussi celui qui a reçu le pardon de ses péchés. Celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son cœur. L'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Donc, le chrétien, celui qui est né de nouveau, mais c'est celui-là qui est appelé à parler du Saint-Esprit à ses proches, autour de lui. Oui, seul le chrétien, mes amis, peut parler du Saint-Esprit conformément à la parole de Dieu. Seul celui qui suit fidèlement Jésus-Christ en obéissant à la parole de Dieu, celui-là peut parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que parler du Saint-Esprit, mes amis, c'est parler de la vie chrétienne dans son engagement et dans son service pour Dieu. C'est parler de l'Église dans sa réalité terrestre et future. C'est parler du royaume de Dieu ici-bas et à venir. C'est parler de la manifestation de Dieu dans la vie du croyant. C'est parler de l'action de transformation spirituelle dans la vie du chrétien. Le chrétien est appelé à changer. Le chrétien est appelé à faire des progrès, jour après jour, pour ressembler à Jésus-Christ. Parler de la Pentecôte, c'est parler du Saint-Esprit qui a été envoyé pour faire des disciples, des témoins du ressuscité. C'est parler de l'annonce de l'Évangile pour la construction de l'Église. Parler de la Pentecôte, c'est aussi parler de la réalité quotidienne du chrétien. C'est parler de ce qu'il vit tous les jours avec Dieu et aussi avec les hommes. Si je crois en tant que chrétien aujourd'hui, si je crois que l'Esprit a été envoyé pour former l'Église, est-ce que je crois dans mon cœur que l'Esprit m'a été envoyé pour me transformer? Si oui, quelle est la place en tant que chrétien je donne à l'Esprit dans ma vie? Est-ce que je lui laisse et lui donne la place qui doit être la sienne? C'est-à-dire celui qui prend le contrôle de ma vie. C'est ça Pentecôte, mes amis. Pentecôte, c'est laisser le Saint-Esprit dans mon cœur prendre la place qui doit être la sienne. Et sa place doit se manifester par son œuvre. Et son œuvre est une œuvre de transformation, de restauration, de régénération. Parler de la Pentecôte, c'est aussi parler du poids que Dieu veut donner à ma vie. Dans le monde, on dit qu'une personne a du poids à cause de ce qu'il est ou à cause de ses biens, son patrimoine, son compte en banque. Lui, il a du poids parce qu'il a un grand compte en banque. Ou à cause de ses relations, son réseau d'amis, son réseau d'influence. Parce qu'il connaît des gens haut placés. Alors, mes amis, imaginez quelqu'un parmi nous qui est directement en relation avec le président de la République. On dirait qu'il a du poids. Ou, imaginons parmi nous, parmi le peuple de Dieu, quelqu'un qui soit le président d'une très grosse entreprise. On dirait que celui-là, il a du poids. Et c'est comme ça dans le monde actuel, nous donnons, nous raisonnons, en donnant du poids à telle ou telle personne à cause de ce qu'il a ou ce qu'il est. Mais tout cela, mes amis, ne donne pas de la valeur aux yeux de Dieu. Non pas qu'il faut négliger ces choses, mais ma valeur ne doit pas dépendre de mes biens. Parce que nous avons tous qu'un patrimoine, ça vient de sa part. Et les voleurs sont bien placés pour le faire partir, ce genre de patrimoine. Tout disparaît aussi vite que ça vient. Seule l'œuvre de l'Esprit dans mon cœur, son action de sanctification, peut me donner du poids devant Dieu. Amen. Mon vrai poids, c'est l'œuvre de l'Esprit dans ma vie, mes amis. Ce que Dieu fait dans ma vie, ça a du poids. S'il n'y a pas l'Esprit Saint dans ma relation avec Dieu, si ce que je vis n'est pas sous le contrôle de l'Esprit, cela n'est purement religieux. Cela n'est qu'illusion. Cela n'est que tromperie. Il faut que ça soit l'Esprit Saint qui agisse dans ma vie. Sinon, cela n'est qu'illusion, que de la facette. Seul le Saint-Esprit, Pentecôte, mes amis, pensez Pentecôte, seul le Saint-Esprit est capable de donner de la substance dans ma vie. Seul le Saint-Esprit, par son œuvre de sanctification, parce que j'ai choisi de lui donner la place qui lui revient. Seul le Saint-Esprit peut me donner du poids dans ma vie. Oui, Seigneur, nous voulons que notre vie ait du poids. Est-ce que aujourd'hui, mes amis, je désire que ma vie ait du poids? Ce poids ne peut venir que de ma relation profonde avec Dieu dans sa parole. Le chrétien doit peser devant le Seigneur. Le chrétien doit avoir du poids devant les hommes. Non pas à cause de lui-même, mais à cause de la sainte présence du Saint-Esprit dans sa vie. Pentecôte, c'est quoi? C'est l'Esprit qui vient habiter dans le cœur du croyant, dans le cœur de celui qui choisit de suivre Jésus-Christ dans la foi. Mais pourquoi faire? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de me donner son Esprit? On peut se poser cette question. C'est-à-dire, pourquoi, lorsque je lis ta parole, tu me dis que tu m'as donné ton Esprit? Mais pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que je pourrais vivre ma vie chrétienne sans l'accent de l'Esprit? Pourquoi aujourd'hui ai-je besoin du Saint-Esprit? Mais alors, si j'ai besoin du Saint-Esprit pour vivre ma relation quotidienne, harmonieuse, normale avec le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'est-ce qui m'empêche de vivre selon son Esprit? Dans notre passage, l'apôtre Paul met l'accent sur quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul parle de relation filiale entre le chrétien et Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Paul évoque une relation filiale de père à fils. Pourquoi Paul souligne cette relation filiale de père à fils? Et il me semble, c'est pour que nous puissions jamais oublier, mes amis, que nous sommes enfants de Dieu. Le chrétien est un enfant de Dieu, par grâce, par adoption en Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, nous ne devons jamais oublier cette dimension, notre nouveau statut d'être enfant de Dieu. Que nous appartenons au Seigneur. Dès l'instant où on a fait le choix de suivre Jésus-Christ par la foi jusqu'au bout, nous devenons enfants de Dieu. Et l'Esprit m'a été donné, entre autres, pour me rappeler cela, pour que je ne l'oublie pas, nous rappeler notre nouveau statut. J'aime bien lorsqu'il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça a été un des premiers plus beaux versets qui m'a énormément encouragé lorsque j'étais jeune chrétien. Que ce passage me rappelait par l'esprit que j'étais enfant de Dieu. Et il est vrai que la vie avec ses difficultés, avec ses épreuves, plus ou moins dures les uns pour les autres, ces épreuves peuvent nous faire douter de ce que nous sommes. Nous pouvons être déçus par nos proches. Nos amis peuvent nous tourner le dos. Nous pouvons même douter de la présence du Seigneur lorsque nous sommes au creux de l'épreuve. Douter de son amour. Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Moi qui suis dans le gouffre, où es-tu, Seigneur? On peut même douter. Nous pouvons douter aussi de son amour lorsque nous sommes sous le feu de la cruauté de l'homme, de la douteur de la vie. Mais l'Esprit est là pour nous rappeler que nous sommes au fond de Dieu. Amen. Au fond du gouffre, lorsque tout va mal, lorsqu'on perd espoir, lorsqu'on ne voit plus le bout du tunnel, lorsqu'on doute même de nous-mêmes, l'Esprit rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Quelle parole, mes amis, quelle parole édifiante. Hein? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. L'Esprit m'a été donné pour me rappeler sans cesse mon nouveau statut d'enfant de Dieu. Mais aussi, mes amis, pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit m'a été donné pour me conduire dans la présence du Seigneur. Qui peut marcher devant Dieu, le cœur en paix, le cœur reconnaissant, le cœur plein de confiance? Qui peut marcher devant Dieu ainsi, sinon celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu? Amen. L'Esprit m'a été donné pour qu'aujourd'hui, je puisse marcher dans le Seigneur. Non pas dans la crainte, mes amis, mais le cœur confiant, le cœur apaisé, parce que mes péchés m'ont été pardonnés, parce que j'ai la vie éternelle en moi, j'ai l'espérance de la vie éternelle par l'Esprit de Dieu, mes amis. Il semblerait que vouloir nous conduire dans la présence de Dieu, soit la vocation de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Mais est-ce que moi-même, je désire marcher devant Dieu? savez, je peux désirer recevoir le pardon de mes péchés, parce que je sais que si je n'ai pas le pardon de mes péchés, il y a l'enfer qui m'attend. Je vais dire, Seigneur, je t'accepte. J'accepte ton message. Je veux devenir enfant de Dieu. Oui. Mais est-ce que maintenant, je veux marcher devant le Seigneur? Humainement parlant, nous sommes tous destinés à marcher selon les désirs de la chair, à vivre selon notre propre convoitise, à vivre selon notre propre volonté, à faire ce que nous croyons être bon ou mauvais, à vivre selon nos propres critères, nos propres jugements de valeur. Mais avec Dieu, c'est autre chose. Avec Dieu, c'est un autre programme. Dieu désire que Pierre Manguet, comme chacun d'entre nous, nous puissions marcher selon son esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu, mes amis. Dieu désire que son esprit me conduise devant lui. Et marcher dans la présence de l'esprit, marcher avec l'action de l'esprit en soi, ce n'est pas prononcer à tout bout de champ Alléluia, Seigneur, Seigneur, Alléluia, l'esprit, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas avoir une grosse tête comme ça de théologie. C'est pas ça. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas porter un titre voulant signifier que par mon titre, je marche devant le Seigneur ou je suis conduit par l'Esprit. Ce n'est pas ça, me semble-t-il, marcher devant le Seigneur, marcher conduit par l'Esprit. Mais moi, je crois que ce qui marque la présence de l'Esprit dans la vie d'un croyant, c'est qu'il est la crainte de Dieu. Amen. C'est qu'il est la crainte de Dieu, mes amis. La crainte de l'Éternel. Il avait nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Marcher devant le Seigneur. La marque de l'Esprit Saint dans ma vie se manifeste par ma crainte de Dieu, par mon amour pour le prochain. Et aussi, lorsque je me détends du mal pour pratiquer le bien. Vous savez, la crainte de l'Éternel me pousse à aimer mon prochain, à l'aimer comme moi-même, mais aussi me pousse à me détourner du mal pour pratiquer le bien. C'est ça, mes amis, me semble-t-il, celui qui a la marque de l'esprit dans sa vie. Il marche devant la face de l'Éternel, dans la crainte de l'Éternel. Amen. Et marcher dans la crainte de l'Éternel, marcher dans la crainte de Dieu, c'est toute l'œuvre de l'esprit dans la vie. C'est en cela que je reconnais que je marche dans la sanctification, que je suis appelé à faire de progrès en progrès. Et l'apôtre Paul va même jusqu'à dire dans 2 Corinthiens 3, marcher de gloire en gloire, à l'image du Seigneur, l'Esprit. Si je désire, si j'ai choisi de laisser l'Esprit travailler mon cœur, alors je sais qui me fera marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que je lui appartiens et qu'il veut se glorifier dans ma vie. La parole de Dieu nous dit que Dieu chérit l'Esprit qu'il nous a donné. Dieu chérit l'Esprit qu'il nous a donné. Lorsque Dieu nous envoie son esprit, que cet esprit vient habiter dans notre cœur par la foi, lorsque nous marchons devant la face du Seigneur, la Bible nous rappelle que Dieu chérit l'esprit qu'il nous a donné. C'est-à-dire que Dieu prend soin de son esprit. Si Dieu prend soin de son esprit en nous, nous devons, en retour, avoir une vie qui lui soit digne. Découvrir cette relation intime et personnelle que j'ai avec Dieu me pousse à dire Abba, Père. Qui peut prononcer, mes amis, de telles paroles? Abba, Père. Qui peut prononcer cela? Sinon, celui qui vit de la grâce de Dieu. Celui qui a découvert la grâce de Dieu. Celui qui a découvert en Jésus-Christ que la vie n'est que grâce de Dieu. Grâce et miséricorde. Celui qui a découvert que l'intimité qu'il a avec Dieu n'est que pure grâce. Oui, celui qui a découvert la grâce de Dieu peut dire, le cœur reconnaissant et confiant, Abba, Père. C'est pas donné à n'importe qui, mes amis, même si la porte est ouverte à tout le monde. Mais pouvoir dire Abba, Père, c'est le privilège du croyant. C'est le privilège de celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Et ayant reçu cet Esprit, tout naturellement et tout automatiquement, nous sommes appelés à marcher dans la crainte du Seigneur, à marcher dans sa présence. Et pouvoir dire Abba, Père. Vous savez, c'est très fort ça. On peut le dire avec la bouche, on peut le dire avec les mots, mais lorsqu'on le dit d'une conviction profonde, ça change tout, mes amis. Ma relation change tout. Ça change ma relation. Pouvoir dire au Seigneur, Abba, Père, c'est quelque chose de très fort. Une intimité très profonde. À l'exemple du Christ, qui appelait son Père, Abba, Père. Et nous, en tant que chrétiens, par le même esprit que nous avons reçu, nous pouvons aussi dire, Abba, Père. Que Dieu nous aide, mes amis. Que Dieu nous aide à comprendre cette dimension filiale très profonde par son esprit. Que nous puissions découvrir cette relation extraordinaire et merveilleuse que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Pouvoir dire Abba, Père. Et pour cela, c'est découvrir que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. On est adoptés par le Seigneur. C'est aussi découvrir et accepter que ma vieille nature ne soit plus un frein à l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est marcher dans la lumière comme Dieu lui-même est lumière. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Trop longtemps, j'ai menti. C'en est fini maintenant du mensonge. Trop longtemps, j'ai eu cette attitude hypocrite. Trop longtemps, j'ai été dans l'illusion. Seigneur, maintenant, je veux marcher dans la lumière, comme toi, tu es la lumière. Et ça, c'est par l'Esprit Saint, mes amis. Pentecôte, mes amis. C'est ça la Pentecôte, mes amis. Que aujourd'hui, nous pouvons marcher dans la lumière, comme Dieu lui-même est lumière. Amen. Ce n'est pas facile, mes amis. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais elle est belle. Elle est belle parce que nous ne sommes pas seuls. Amen. Elle est belle parce que Dieu nous donne la promesse de sa présence, mais aussi son esprit pour nous accompagner. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Je saute des passages. Beaucoup de choses à dire. Mais je me dois de vous dire que le chrétien celui qui est conduit par l'Esprit, celui qui marche dans la crainte du Seigneur, et aussi celui qui souffre avec le Seigneur. Si Manu pourrait mettre le passage, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pentecôte, c'est aussi prendre conscience de cette part de souffrance à laquelle je suis appelé à vivre. En tant que chrétien, lorsque je choisis de suivre Jésus-Christ, je choisis automatiquement de souffrir avec lui. Souffrir avec le Seigneur, ce n'est pas du masochisme, ça n'a rien à voir, mes amis. Ce n'est pas bêtement prendre un bâton et se frapper, c'est pas ça. Souffrir avec Jésus-Christ, me semble-t-il, c'est accepter d'être rejeté. C'est accepter d'être incompris, d'être moqué par les hommes, à cause de notre espérance qui est en nous, à cause du témoignage que nous devons rendre. Souffrir avec Christ, c'est accepter de faire la volonté de Dieu dans l'obéissance à sa parole. Même si cela doit me coûter. Et de toute manière, ça va me coûter. Parce que faire la volonté de Dieu, ça coûte. Lorsque je veux obéir au Seigneur face à un monde méchant, hostile, rebelle, ça me coûte. Lorsque je choisis de vivre à contre-courant, lorsque je choisis de ne pas me conformer au modèle de ce monde, lorsque je choisis le chemin de l'opprobre du Christ, ça me coûte. Et en tant que chrétien, souffrir, c'est suivre les pas du Christ. Mais il y a une promesse, mes amis, afin d'être glorifié avec lui. D'abord la souffrance, avant la gloire. Et l'espérance de la gloire me donne la force de souffrir pour le Seigneur. L'un après l'autre, n'est-ce pas? Pas d'abord, comme j'ai témoigné cette semaine à une jeune fille du quartier, en parlant des études, je lui disais, d'abord le diplôme avant l'ABM. Non pas l'ABM avant le diplôme. D'abord on souffre, après on sera glorifié. Mais l'espérance de la gloire me donne la force de souffrir. Parce que lorsque je souffre avec Jésus-Christ, je ne suis pas seul, mes amis. J'ai l'Esprit qui est là pour me soutenir, pour m'aider à marcher derrière les traces du Seigneur. Il y a la souffrance, mais il y a aussi notre héritage. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous savons tous qu'en tant que chrétien, le vrai héritier, c'est qui? Qui est le vrai héritier? C'est le Christ. Et ça, il faut le dire à force, mes amis. C'est Jésus-Christ, le seul héritier. Et cela nous est dit dans ce beau passage, dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hébreux chapitre 1, verset 2. Hein? Le Fils, il a établi héritier de toutes choses. Le seul héritier digne, c'est Jésus-Christ. Lui seul doit hériter de tout. Mais quelle est notre grâce? Dieu nous fait co-héritier avec lui. Si Jésus-Christ doit hériter de tout, parce que Dieu l'a dit, nous savons tous que Dieu ne ment pas. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Si nous croyons fermement que l'héritier de tout est Jésus-Christ, nous devons croire avec autant de force que Dieu, dans sa grâce, nous a fait co-héritier de Christ. Ce qui revient au Seigneur Jésus-Christ, de fait, Dieu nous fait la grâce de participer à cet héritage. Et ça doit nous donner de l'encouragement. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La souffrance avant la gloire. Mais la gloire sera là, parce que c'est vrai. C'est vrai qu'un jour, nous allons hériter avec le Seigneur. C'est vrai, mes amis. Si nous souffrons avec lui, si nous acceptons de marcher derrière lui, fidèlement, en comptant son secours. La vie chrétienne n'est pas facile, mes amis. Mais elle est belle. Elle est belle parce que nous voyons l'œuvre du Seigneur dans notre cœur, autour de nous, jour après jour. Nous le voyons avec les yeux de la foi. C'est beau de voir comment une personne se transforme tout doucement. C'est beau. Je connais un jeune homme que je vois se transformer tout doucement. C'est beau. C'est beau à voir comment le Seigneur fait son œuvre dans la vie des uns et des autres. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est pourquoi l'Esprit nous rappelle sans cesse que nous sommes enfants de Dieu. Béni soit le Seigneur. Pour terminer, mes amis, je dirais simplement que nous devons tous être remplis d'espérance. Si la vie n'est pas facile, n'oublions jamais les merveilleuses promesses du Seigneur. Nous avons tous besoin d'encouragement pour persévérer. Alors pensons à notre héritage. Pensons à ce qui nous attend là-haut. Tout sachant que dès maintenant, nous avons un aperçu. Quel est le but de l'Esprit dans ma vie? L'Esprit m'a été donné pour me conduire dans les voies du Seigneur, pour que je puisse connaître et marcher dans la crainte de l'Éternel. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous tienne la main. Amen.